Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café LNH, le balado de LNH.com. Nicolas Ducharme au micro, heureux de vous parler en ce 23 juin. Certains qui se réveillent peut-être avec une envie de fêter, bien évidemment, parce que fête nationale du Québec, Saint-Jean-Baptiste qui s'en vient demain. Alors on s'est dit, quel moment parfait pour vous préparer, pour vous offrir un balado spécial repêchage. On le sait, le repêchage avec National de hockey qui s'en vient les 28-29 juin, donc dans quelques jours, là, en direct de Vegas, de la sphère de Las Vegas. Donc, gros show à venir. Et ce sera probablement le show Macklin Celebrini, parce que c'est lui qui est classé sur partout là, comme le premier, celui qui devrait être repêché au premier rang. Mais par la suite, on verra bien qui va être repêché. Ça sera à suivre. Donc aujourd'hui, à l'émission, on va parler de tout ça. On va parler des joueurs qui sont à surveiller, les joueurs québécois, les joueurs de la LHJMQ aussi, les meilleurs espoirs, tout ça. On va parler de tout ça avec mes deux invités. Le premier, je l'ai avec moi, Sébastien Deschambault. Salut Seb!
Salut Nicolas!
Comment tu vas?
Ça va très bien. Mieux que... Écoute, tu as parlé, c'était le meilleur moment... Quel bon moment pour parler de repêchage avec la Saint-Jean qui approche. Ton air climatisé, c'est aussi dit quel bon moment pour lâcher alors qu'il fait 48 degrés dehors cette semaine. Donc, toutes mes condoléances.
La semaine a été dure. Honnêtement, là, je suis un peu jaloux des collègues JF et JF Chaumont et Guillaume Lepage qui, eux, au moins, ont pu passer un peu de temps dans un aréna parce qu'il faisait plus froid. Pas d'air climatisé, j'ai investi sur des ventilateurs, le tout, le reste. Ça a l'air qu'une thermopompe, ça ne change pas en deux secondes et ça coûte pas l'équivalent d'un ventilateur, donc on y a été pour l'option un peu moins chère.
Je compatis avec toi. Écoute, je pense que les airs climatisés sont allergiques au repêchage parce que le mien avait lâché pendant que j'étais à Nashville l'année dernière, donc je peux te dire que j'en ai entendu parler... Par le biais de la cellule familiale qui faisait chaud.
Ouais, exactement. JF et Guillaume, bon, qui là, avec la finale de la Coupe Stanley, sont en déplacement. Puis tout ça, on va leur parler plus tard cette semaine pour revenir justement sur les derniers matchs de la Coupe Stanley, tout ça. Et ils vont être en direct de Vegas en plus, donc on va pouvoir leur parler pour le repêchage. Donc, ce sera dans le prochain épisode. Donc, Seb, tu es avec moi. Et Jean-François Danfousse qui va joindre à nous dans quelques minutes pour discuter de ce... Du repêchage de cette QV 2024. Jean-François, qui est dépisteur pour le Bureau central de dépistage de la Ligue nationale de hockey. Donc, des joueurs, des vidéos, tout ça, il en a vu des quoi, je monte-tu à des milliers? Des séquences et tout ça, des joueurs, il en a évalué une tonne de copies, comme on disait à l'époque, du côté d'une chaîne de... vidéo, magasin
vidéo. Chaîne de location.
De location qui n'existe plus, à ce que je sache. Là, donc, changement, mais tout ça. Donc, on va parler avec lui, JF, dans quelques minutes de tout ça. Chers auditeurs, avant de se lancer dans le sujet, dans le vif du sujet, ben, sachez, si vous nous écoutez sur le site de LNH.com, ben, on est disponible sur toutes les plateformes d'écoute de balado. Faites une recherche. La tasse de café LNH, vous allez nous trouver. Apple, Google, Spotify, peu importe. Abonnez-vous, comme ça, vous êtes certain de ne pas manquer un balado, comme ça vous n'allez pas manquer le prochain. Seb, on se lance sur le sujet avant d'amener JF. Je vais quand même parler des dossiers importants de ce repêchage-là. On le sait, bon, au niveau de l'ordre justement l'ordre du classement, je vais finir par le dire. Hein, le classement du repêchage, ce sera les Sharks de San Jose qui vont pêcher premier, suivi des Blackhawks qui sont deuxièmes cette année après avoir pris Connor Bedard au premier rang l'année dernière. Les Ducks d'Anaheim, troisième, les Blue Jackets de Columbus, quatrième et les Canadiens de Montréal, cinquième. Dans le fond, ça ressemble énormément à l'année dernière quand on y pense, parce que les Canadiens étaient cinquième aussi. Il y a juste les Sharks, dans le fond. Tout le monde, c'est les mêmes cinq équipes, hein, dans le fond. C'est juste que l'ordre a été un peu interchangé. Donc, peu de changements là-dessus. Ensuite, au sixième rang, ben, c'est l'Utah qui va faire son premier choix. On va suivre. J'ai hâte de voir un peu comment ça va se passer. On a d'ailleurs dévoilé nos couleurs du côté du Utah. J'aime ça. Ça me fait penser les couleurs. Moi, je suis un gros fan de l'Université du Maine au niveau des uniformes, tout ça. Je trouve ça très beau. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'on va adopter.
C'est très niché, ça, Nicolas, comme attrait.
Soyons francs, en 2024, oui, davantage. Mais tu sais, à l'époque, l'Université du Maine, dans les années 90, c'était un gros programme. Paul Kariya avait fait des malheurs là-bas. Il y avait l'Université du Vermont aussi, les années Martin-Saint-Louis. Puis moi, c'est à ce moment-là que je me suis plus intéressé au hockey. Donc, l'Université du Maine, moi, des très belles couleurs. Et les Sénateurs d'Ottawa qui vont repêcher 7e. Donc, c'est ça pour le top 7, les joueurs surveillés. Parlons-en un peu. Bon, les Canadiens, tu fais quoi, Seb? Je te pose une question. On regarde les joueurs qui ont été repêchés dans les dernières années. Beaucoup, 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 beaucoup de défenseurs qui ont été choisis par les Canadiens. On a une brigade qui est super intéressante. Mais là, cette année, logiquement, on irait pour un attaquant. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de qualité en défensive. On va en parler avec Jeff Danfous tantôt. Beaucoup de qualité chez les défenseurs. On n'est pas maître de notre destin chez le tricolore cette année.
Oui, puis c'est une discussion qu'on avait eue, moi puis Jean-François, à Buffalo, là, il y a deux semaines environ.
Vous êtes vu à la séance d'évaluation des espoirs.
On s'est croisés. Jeff avait été très généreux de son temps là-bas, puis tout comme il va l'être avec nous, j'en suis persuadé. Mais c'est un repêchage ou repêcher en haut. Tu as parlé par rapport à l'an dernier. Repêcher parmi les quatre premiers, c'est intéressant l'année dernière. Là, ça peut être intéressant même de repêcher dans les 10 premiers parce que ça se peut que ton joueur soit là. Donc, qui est le joueur?
Les Sénateurs peuvent avoir le rhum qu'ils voulaient au 7e rang.
Exactement.
Puis il aurait pris le même au 2e rang, là, c'est ça? Là?
Exactement. Donc, c'est vraiment. Là, on parlait spécifiquement des Canadiens. Ils ont dit publiquement que dans un monde idéal, ce serait un attaquant parce que oui, on a. Que ce soit Lane Hudson, Logan Mailloux, David Reinbacher. Il y a plusieurs jeunes défenseurs.
Ceux qui sont déjà Caden, en haut, Lane Hudson.
Caden Goulet, c'est ça, exactement. Donc, c'est vraiment, c'est bien garni. Mais les équipes, on va toujours dire, on va prendre un défenseur ou on va prendre un centre pour bâtir notre équipe gagnante. Et si ton meilleur joueur, et disons que leur meilleur attaquant ou leurs deux meilleurs attaquants ne sont plus là, bien là, tu as une décision à prendre. Est-ce qu'on prend le meilleur joueur sur notre liste? Est-ce qu'on recule, essayer d'aller chercher un autre actif? On dit toujours que jamais assez de bons défenseurs dans une équipe. Puis sinon, mais si ça ne sera pas tout de suite, bien, on pourra peut-être la monnayer plus tard. Je pense que tous les dépisteurs vont dire la même chose. Que le plus important, c'est de repêcher de la qualité. Donc, ça va être le joueur le plus haut sur leur liste. Et si c'est un défenseur, mais ça se pourrait bien que ce soit un défenseur parce que c'est une excellente QV cette année.
Si les Canadiens repêchent un autre défenseur, c'est sûr qu'il va avoir des réactions, mais à un moment donné, demander à la plupart des directeurs généraux, on repêche le meilleur joueur et non pas le joueur qu'on voudrait qu'il soit le meilleur à cet endroit-là. Donc, on verra bien.
C'est le jour de la marmotte. L'année dernière, là, on parlait beaucoup d'amateurs qui voulaient absolument que ce soit Matvei Nichkov qui soit repêché. Finalement, ça a été David Landbacher. Donc, regarde, cette année, les amateurs veulent un attaquant, mais peut-être qu'ils vont encore devoir se contenter d'un défenseur. On verra dans quelques jours.
T'attends-tu à ce que Kent Hughes et Jeff Gorton soient actifs? Mais ça a commencé, là, d'ailleurs. Les transactions, il y en a déjà eu quelques-unes, là, entre autres Pierre-Luc Dubois, qui a été échangé avec les Capitals, aux Capitals de Washington. Mais t'attends-tu, dans la position où on est présentement, les Canadiens, où on tente de... Tu sais, la remontée de la construction, la remontée de la reconstruction, devrais-je dire, la fin du creux de vague, le tourne la page, comme disait Nathalie René Simard. T'attends-tu à ce que, là, on commence à être actif pour aller chercher des joueurs établis contre nos choix? Parce que de toute façon, là, des choix, on en a encore plusieurs, en plus de ceux qu'on vient d'empêcher.
Et on en a eu beaucoup. Ouais. Donc, c'est bien beau avoir beaucoup d'espoir. Faut trouver de la place pour les faire jouer, ces espoirs-là, que ce soit dans la Ligue américaine ou dans la Ligue nationale. C'est tous des billets de loterie. On espère toujours en avoir un gagnant. C'est bien d'avoir plusieurs billets, d'améliorer tes chances d'en trouver un gagnant à un moment donné.
Faut que tu fasses jouer aussi.
Faut que tu fasses un peu des gains à un moment donné.
Oui, faut que tu fasses jouer. Tu sais, il y a certains choix de deuxième ronde là, qui étaient troisième, quatrième trio l'année dernière à Laval. C'est pas comme ça. C'est pas de développement optimal. Là. C'est pas une manière de se développer la meilleure.
Ouais. Puis pour vraiment ta question, oui, je m'attends en fait à ce qu'ils soient. Je suis persuadé qu'ils sont très actifs sur le téléphone présentement. Je suis persuadé qu'ils ont les outils en main pour l'être actif. Mais il faut être deux pour danser le tango. Oui. Hein, donc, il faut qu'une autre équipe soit partante. Il y a un mot que je cherche qui va me revenir en plein milieu du balado. Puis je vais le crier fort tantôt. Oui, disposé. Ah, voilà, c'est disposé. Ça que je cherchais. Tu sois disposé à donner ce que les Canadiens ont envie d'avoir. Je pense que tu as pas les joueurs établis. Évidemment, on ne veut pas avoir un joueur de 35 ans. Je pense que les transactions à la Kirby Dack, à la Alex Newhook, on va peut-être viser un petit peu plus haut encore parce que, bon, on veut ajouter là, du talent au sommet de la pyramide. Donc, il y a plusieurs noms qui sont véhiculés. Je n'ai pas besoin de les répéter. Là, les Martin Nekash, les Trevor Zegras et autres. Peut-être toujours des joueurs champ gauche. Je parle de Pierre-Luc Dubois. Personne vraiment s'attendait à ce que ça se règle aussi rapidement. Donc, je m'attends à ce qu'il soit actif. Mais est-ce que ça va mener des résultats à court terme? Peut-être pas. On va peut-être avoir une annonce du commissaire Gary Bettman au moment où les Canadiens vont monter sur scène. Une des deux fois de leur première ronde, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont aussi le 26e choix, gracieuseté des Jets de Winnipeg, qui peut servir aussi dans une transaction ou repêcher un joueur. Donc, je m'attends à ce qu'il y ait... Si ce n'est pas les Canadiens, je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup d'actions en général d'ici au repêchage.
Et avec le plafond salarial qui augmente quand même de façon importante, une équipe comme les Canadiens qui, une fois Carey Price sur la liste des blessés à long terme, tu te retrouves avec une marge de manœuvre qui est quand même intéressante. Là. Je ne commençais pas à calculer, mais on est dans les 15-20 millions, là, peu importe de disponibles. Ben là, il y a peut-être des joueurs qui vont tomber, mais ça, le fait que le plafond monte, je me demande si le prix pour un Nekash va pas être plus élevé parce qu'il y a plus de parieurs à la table, comme on dit.
Exactement, le plus de place pour tout le monde. Donc, tout le monde a plus de marge de manœuvre, mais il y a quand même plusieurs équipes qui vont être prêtes à la gorge.
Seb, on se lance, on va l'accueillir avec nous pour discuter de ce repêchage. On le rejoint en direct de Cap-Pelée au Nouveau-Brunswick. Il est dépisteur pour le Bureau central de dépistage de la Ligue nationale de hockey. Jean-François Danfousse. Salut Jean-François.
Hey, salut les gars.
Et merci d'être avec nous. Quatrième rendez-vous avec nous annuel. Comme d'habitude, on est toujours content de t'avoir sur le balado pour discuter de la cuvée de cette année, les autres cuvées des dernières années. T'en penses que quand tu regardes un peu, bon, avant de dire ce que tu penses de tout le monde, là, parle-nous un peu pour ceux qui ne te connaissent pas, puis c'est quoi tes responsabilités? Tu es celui qui scrute surtout l'Est du Canada, donc le Québec, les Maritimes, pour le Bureau central.
Exactement. Donc, je viens de terminer ma cinquième saison avec la centrale de recrutement de la Ligue nationale. Mon territoire principal, c'est évidemment le Québec, les Maritimes. Et puis, la façon qu'on fonctionne, nous, à la centrale, c'est que tout le monde sur le staff fait du crossover, dans le sens que le premier mois et demi, je suis sur mon territoire, j'essaie de décortiquer un peu les espoirs de la saison. Puis vers le mois de novembre, décembre, c'est là qu'on commence à voyager beaucoup. C'est qu'on se déplace en Ontario, on se déplace dans l'Ouest canadien, on se déplace dans la USHL ou les collèges américains pour vraiment être capable de faire des comparaisons. Parce que c'est une chose de voir les joueurs sur ton territoire, mais ce serait difficile de faire des listes globales sans faire les comparaisons.
C'est-tu une approche qui est plus récente? Le faites-vous de plus en plus, ça, ces crossovers-là?
Non, c'est depuis que moi je suis là. On a toujours utilisé le même protocole. Donc, c'est différent des équipes dans le sens que les équipes ont évidemment des plus gros staffs. Puis, chaque équipe a probablement deux, trois crossovers qui se promènent un peu partout. Puis, les restes des dépisteurs sont plus régionales. Tandis que nous, tout le staff est sur le crossover, mais notre staff est plus petit.
Tu n'as pas compté le nombre de kilomètres et le nombre de Tim Hortons cette année, j'imagine?
Tim Hortons, j'ai des bons points d'accumuler, en tout cas.
Ils te connaissent par ton prénom, là.
quelques cafés gratuits à travers tout ça.
C'était pas mal le lieu de rassemblement pour déjeuner à Buffalo, ça aussi, pendant le Combine, le Tim Hortons de l'hôtel directement. C'était un bon choix, ça.
Tu peux sortir le Canadien du Canada, mais tu ne peux pas sortir le Canada du Canadien, hein?
Il y a quand même une coupe de Tim Hortons proche de la frontière.
On se lance, JF. Je t'emmène dans le vif du sujet. Il y a des années où on n'est pas nécessairement certain de qui va être le premier choix. Il peut y avoir quelques hésitations, mais depuis le début de l'année, il n'y a pas vraiment eu de changement. Macklin Celebrini, qui est en haut de toutes les listes, il est en haut de la liste du Bureau central. C'est les Sharks de San Jose qui ont le premier choix. À quoi on doit s'attendre de ce joueur-là, parce que, écoute, il reste juste à prononcer son nom, là. Les Sharks ont été assez clairs que c'est lui qui allait être l'heureux élu.
Ben, en général, je te dirais que c'est un joueur complet qui peut faire un peu de tout sur la glace, peut te marquer des buts, peut fabriquer des jeux, un excellent patin, Je pense que ce qui complète un peu tous ces éléments-là, c'est le fait qu'il est tellement compétitif, veut être le meilleur. De faire ce qu'il a fait cette année à Boston University, comme un 2006, des fois on voit des late s'établir au niveau universitaire pour avoir du succès, mais le faire comme un plein 2006, dominer des matchs comme qu'il le fait, c'est très, très impressionnant. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui pourra assez facilement s'établir au niveau de la Ligue nationale. C'est tout le temps difficile de mettre des chiffres ou des attentes. Parce que, tu regardes des gars comme Lafrenière qui commence cette année à s'établir. Ça, il a pris quelques saisons. Tu as des gars comme Bedard qui se sont établis plus rapidement. Ça fait que c'est dur à dire si Celebrini pourra avoir l'impact immédiat. Mais de qu'est-ce que j'ai vu cette année, puis dans les dernières années, c'est certainement quelqu'un qui a l'intelligence puis les outils pour avoir un impact très, très rapidement au niveau de la Ligue nationale.
Et tu dis très rapidement, tu le vois-tu faire le saut dès l'an prochain? Parce qu'il est dans NCAA, on dirait que ça change un peu la dynamique dans l'NCAA par rapport à les Ligues juniors ou l'Europe, l'NCAA. C'est un beau terrain de développement pour un joueur, surtout un joueur de son âge, comme tu viens de dire, là, il a 17 et quoi, il est encore 17 ans, il vient d'avoir 18 ans, là, écoute, il a à peine une semaine, bonne fête Macklin, là, mais il vient tout juste d'avoir 18 ans. Là.
Non, exactement, c'est difficile pour moi de faire un jugement là-dessus sur qu'est-ce qu'il devrait faire, ça dépend où est-ce que les Sharks sont rendus, ou évidemment si que les Sharks le choisissent, mais dépendamment de la profondeur qu'ils ont, les joueurs qui pourront l'entourer. Mais encore une fois, on regarde Bedard à Chicago, il le fait dans un environnement où ce que l'encadrement n'était pas 100% non plus de son bord, mais il a quand même réussi à avoir une saison assez exceptionnelle pour son âge. Donc, si qui décide de faire le saut au niveau Ligue nationale, je pense que c'est quelqu'un qui pourra évidemment jouer un rôle d'importance, d'avoir l'avantage numérique, d'avoir des unités spéciales pour vraiment se démarquer. Puis en ayant ces répétitions-là, je pense que c'est quelqu'un qui pourra facilement s'adapter.
On en a parlé, Nick en a parlé, depuis quand même le début de l'année, le consensus numéro un. Est-ce que sa performance au championnat mondial junior a un peu permis de le séparer complètement du reste du lot? Ça n'a pas été une très bonne année pour le Canada, mais le point positif a été Macklin Celebrini, il a joué contre des joueurs plus âgés que lui, et a quand même été très, très bien paré. Est-ce que ça a été un petit peu la confirmation qui était une coche et demie par-dessus tout le monde cette année?
Je pense que c'est un des événements, évidemment, qui est tout le temps important pour les équipes, pour juger le niveau des espoirs. Mais je reviens à ce qu'il a fait dans la NCAA. Le niveau de jeu est très, très, très fort. Les gars sont matures. La façon qu'il a pu répondre physiquement à ce calibre de jeu-là, c'est quand même très impressionnant. Mais le fait qu'il le fait au niveau international comme ça, c'est évidemment, ça met la cerise sur le sundae. Tu sais que ce jeune-là est exceptionnel, qu'il va avoir un impact au niveau Ligue nationale. Puis c'est bien pour c'est qui aboutit dans un marché comme les Sharks de San Jose. Je pense que c'est bien d'avoir des vedettes dans ces marchés-là pour faire revenir un peu la franchise qui était avant.
Directeur général Mike Greer des Sharks a dit qu'il n'y avait pas l'intention d'échanger Logan Couture. C'est un joueur qui peut être, à mon avis, un très bon mentor pour Celebrini. On évolue aux mêmes positions. Un peu même style de jeu. Tu sais, Couture est quand même juste oué, là, mais des deux côtés de la patinoire. Tu vois-tu déjà là une source d'inspiration pour Celebrini pour ses débuts dans la LNH?
Ben, c'est certain que ça prend des vétérans comme ça pour commencer une carrière. Un peu comme Foligno l'a fait avec Bedard à Chicago. Ça te prend des gars qui ont du vécu, qui sont prêts à absorber un peu la pression, puis laisser les jeunes s'épanouir en même temps. Donc, c'est certain que les Sharks devront faire un bon travail de ce côté-là, que ce soit sur le côté des agents libres au mois de juillet ou quelques échanges pour faire sûr que si qu'un jeune comme Celebrini arrive dans la Ligue nationale cette saison, qu'il y ait des bons vétérans autour de lui.
Bon, le dossier Celebrini qui est réglé là, à nos yeux et probablement à ceux des 31 autres équipes de la Ligue nationale. Mais par la suite, c'est une cuvée où il n'y a pas vraiment de consensus. C'est très difficile d'y arriver. On le sait, il y a des années où on se doute un peu, ça va être quoi, le top 3, top 4. Regardez l'année dernière, là, jusqu'au quatrième rang, là, pas mal tout le monde savait qui allait être repêché. Et ensuite, bon, c'était à la discrétion des équipes vers qui on se tournait. Mais cette année, de deux, les plusieurs dépisteurs, tu confirmeras ou tu t'infirmeras, mais de 2 à 10, 2 à 12, brasse ça dans un chapeau, puis ça peut sortir à n'importe quel endroit. Parle-moi un peu de cette cuvée-là, du top des meilleurs de cette cuvée-là. À quel point il n'y a peut-être pas de consensus?
Non, exactement. Je suis 100% d'accord avec toi. Quand tu sais, autant au niveau. C'est certain que la liste européenne, je la connais un petit peu moins que la liste nord-américaine. C'est certain quand tu regardes de 1 à 10, même du côté nord-américain, quand on est venu à faire notre liste finale, il y a eu des débats, puis c'est des débats qui arrivent pas mal à chaque année, mais on dirait cette année, il y avait une grande variété. Que tu regardes des Lev Shunov, ou même en regardant juste les défenseurs, même en enlevant les attaquants de la conversation, quand tu as des Lev Shunov, des Bjorn, des Perek, des Dickinson, quel ordre que tu veux, ça dépend vraiment de qu'est-ce qu'une équipe recherche. Donc, notre liste est sortie de la façon qu'elle est sortie, mais sur les 32 équipes, je suis pas mal convaincu qu'il y aura un mix dans cet ordre-là.
Parlons-en je veux parler d'un joueur parce qu'il retient un peu l'attention, parce qu'on ne sait pas exactement il y a quelle grandeur. Demidov, Ivan Demidov cette année qui a évolué dans la Ligue, surtout la Ligue junior là, avec Saint-Pétersbourg dans la Ligue junior russe. C'est peut-être, certains disent, le meilleur espoir offensif de la QV. C'est peut-être celui qui, si Celebrini est peut-être plus proche justement de, je lance un nom, là, un Patrice Bergeron ou quelque chose comme ça. Demidov, est-ce qu'il y a un comparatif présentement ou c'est encore difficile un peu à établir? Certains, l'année dernière, on se souvient de Matvey Mishkov qui avait un peu ce type de profil-là et de point d'interrogation-là autour de lui. Est-ce que c'est un peu ce qu'on voit chez Demidov cette année?
Bien, la chose qui arrive avec des joueurs comme ça, c'est l'incertitude du côté de la Russie. Je pense qu'au niveau talent, je pense que c'est clair et net que le jeune est talentueux. Puis il y a un bel avenir devant lui. Tu sais, quand tu regardes, évidemment, je l'ai pas vu en personne. Je peux pas vraiment l'évaluer à 100%, mais j'ai vu des vidéos un peu comme tout le monde. Même si c'est pas sur mon territoire, j'aime aller voir qu'est-ce que les joueurs européens sont capables de faire. Donc, quelqu'un qui est très créatif, des bonnes mains, bon lancé, il y a le package au complet. Puis j'ai vu sur les réseaux sociaux aujourd'hui, mon patron était. Je pense qu'il y avait un genre de rassemblement en Floride pour les joueurs de la Russie. Donc, je pense qu'il a dépassé 6 pieds. Donc, on ne peut pas dire que c'est un petit joueur. C'est un joueur avec un gabarit intéressant. Je pense que j'ai vu 192 livres, si je ne me trompe pas. Donc, c'est quelqu'un qui a une belle maturité physique, en plus des habiletés qu'il a. Donc, ça devient un choix très intéressant si une équipe est confortable à aller du côté de la Russie.
Il y a peut-être une petite différence avec la durée du contrat. Là, je pense que Matvey Mishkov, on savait qu'il y avait encore un contrat de 3 ans versus Demidov qui, lui, il reste juste un an. Puis il a déjà très, très bien dit de façon très claire et précise qu'il voulait jouer en Amérique du Nord. Donc, c'est peut-être l'incertitude un petit peu moins du côté de Demidov, mais encore comme EGS, tu en as vu beaucoup des joueurs russes, j'imagine, sur les listes. Puis ça doit toujours faire un beau casse-tête quand arrive le temps de les mettre en ordre, puis d'essayer de « oh oui, lui, on va le prendre un », parce que je me souviens bien, au campagne, vous, votre liste, oui, elle est basée sur le talent, mais elle est aussi beaucoup basée sur ce que les équipes vont penser. Est-ce que je me trompe?
Ben, c'est un mix des deux, dans le sens qu'on est là pour faire une liste selon notre staff, qu'est-ce qu'on pense qui sont les meilleurs espoirs. C'est certain qu'à un moment donné, il faut que tu regardes les tendances de qu'est-ce que les équipes choisissent aussi. Ça fait que si tu regardes dans les derniers 5 à 10 ans, t'sais, il faut se fier un peu à ces barèmes-là, parce qu'on ne peut pas arriver et dire on va mettre 8 joueurs de 5 pieds 7 en première ronde, parce que la réalité, c'est que les équipes en pigent rarement tôt dans le repêchage. Donc, il faut aller avec les tendances que les équipes vont choisir, mais à la fin de la journée, c'est vraiment notre staff qui dit si que nous, on avait une équipe, c'est probablement ça qui serait nos recommandations.
Tu as amené un point intéressant sur Demidov et sur les joueurs russes. Tu disais qu'il y avait eu un meeting là, de joueurs russes en Floride pour un peu remettre les pendules à l'heure, je ne sais pas, sur certains points, les ventes. On voit ça au football des fois où on organise
des pro day.
Des pro day, merci, des pro day, exactement. J'avais des dans le mot, mais dans la tête. Mais des pro day où on fait venir les équipes, vous venez voir, tel espoir va être là. poser les questions. Est-ce qu'on commence avec la réalité mondiale, la guerre en Ukraine, tout ça, les joueurs russes qui peut-être viennent un peu moins ici? Est-ce qu'on commence à voir émaner ces types de camps-là, de pro day-là, pour ces joueurs-là qui veulent sortir plus rapidement au repêchage?
C'est difficile à dire de mon côté. Je pense que ce camp-là était vraiment organisé par l'agent en tant que tel. Il y avait des joueurs nord-américains qui faisaient partie de ça. Je pense que c'est une façon de cette agence-là à faire la promotion de leurs joueurs. Évidemment, les joueurs russes qui sont très peu vus parce que les dépisteurs se déplacent pas vraiment en Russie pour aller voir les matchs. Donc, ça devient intéressant de ce côté-là.
Ils sont peu vus et ils évoluent dans un calibre qui n'est pas tellement différent du hockey canadien, de l'NCAA, où tu es sur... Mishkov en est le meilleur exemple. Là, avec son club d'origine, il n'était pas utilisé. Il était sur le quatrième trio. Il se fait envoyer ailleurs. Tu vas jouer 10 minutes par match. C'est pareil un peu en Finlande, en Suède. Donc, ça vient un peu... J'imagine que c'est dans les compétitions internationales qu'on peut vraiment les évaluer face à leur père. C'est là que ça devient vraiment important.
Exactement. C'est certain que du côté recrutement, le fait que la Russie puis certains pays sont pas aux championnats internationaux, il y a un impact de ce côté-là. Ouais. Mais je pense que les équipes de l'autre côté ont des staffs, ont du personnel directement en Russie pour vraiment choisir ces joueurs-là. Tu sais, on croit tout dans le vidéo. Tu sais, de plus en plus, on voit des staffs utiliser beaucoup plus le vidéo pour faire le recrutement, mais quand tu as seulement la vidéo et tu n'as pas le visuel en personne, c'est jamais la même chose. Donc, je suis convaincu que les équipes sont bien encadrées de ce côté-là dans chaque pays.
Tu as glissé un mot tantôt sur les défenseurs. Il y en a un, il n'est pas russe, il est du Bélarus, là, pas très loin. Artyom Levchunov, lui, vous avez pu le voir à l'œuvre parce qu'il est à Michigan State. Il fait partie d'une cuvée de défenseurs cette année, pas mal impressionnante. Et encore là... Il y a beaucoup de discussions à savoir qui est le meilleur, lequel va sortir premier. Comme tu as dit, ça dépend aussi un peu ce qu'on cherche comme profil de défenseur. Peux-tu un peu me parler? Là, il y a Levchunov, il y a Ziv Bayum, Zane Parekh, Sam Dickinson. Il y en a d'autres aussi. Parle-moi un peu de cette cuvée-là parce que c'était les Canadiens de Montréal au cinquième rang, puis tu repêches défenseur, défenseur, défenseur depuis plusieurs années, puis tu arrives au cinquième rang, puis finalement, c'est trois défenseurs de qualité qui seront... Sur ta liste, là, tu commences à te poser des questions, là, j'imagine, pour le tricolore. Est-ce qu'on en choisit un autre?
Oui, c'est difficile rendu à ce point-là de décider. Je pense que c'est plus comme leur décision de qu'est-ce qu'ils sentent, qu'ils ont comme profondeur à chaque position. Mais c'est certain que dans le top 10, 12, tu as des joueurs, tu as des défenseurs très, très solides. Un gars comme Levchunov, il a la grandeur, il a la grosseur. Donc, une belle force physique, une belle maturité. Il peut jouer avec la rondelle aussi bien que n'importe qui que j'ai vu cette année. Contrôle le jeu, belle patience. Il peut jouer en avantage numérique, peut tuer des punitions. N'a pas peur de salir le nez dans le trafic. Donc, c'est un morceau, un joueur qui je te dirais, c'est peut-être le défenseur qui est le plus près de la Ligue nationale. Je te dis pas qu'il jouerait l'année prochaine parce que c'est plus difficile, je trouve, pour un défenseur de faire le saut à la Ligue nationale. Mais encore une fois, tu regardes un jeune recrue dans la NCAA qui a presque eu un point par match. Donc, c'est vraiment un joueur complet qui peut faire un peu de tout sur la glace. Un gars comme Zev Bioum, plus dynamique, un patin exceptionnel, très, très fluide dans toutes les directions. Du succès, encore une fois, comme joueur recrue au niveau NCAA. Un late 2005, pas un gros gabarit, c'est pas un 6-2, 6-3, je pense que c'est un 6 pieds juste, mais très très belle mobilité qui peut vraiment apporter un côté dynamique à une équipe qui cherche à créer de l'offensive. Donc c'est un joueur intéressant ce côté-là. Zane Parekh, ben c'est exceptionnel, qu'est-ce qu'il a accompli. Je pense qu'il a marqué au-dessus de 30 buts, si je ne me trompe pas, 33 buts cette année comme défenseur.
Directement, là, celui-là, c'est le bon chiffre.
C'est l'avantage numérique, c'est quelqu'un qui voit la glace en transition, en sortie de zone, un excellent passeur. Il y a de l'apprentissage à faire côté défensif, ça va venir avec le temps, mais certainement, tu ne peux pas enseigner qu'est-ce qu'il fait du côté offensif. Donc, un autre joueur intéressant.
On le voit à la Coupe Memorial dans le cas de Parekh. C'est-tu un peu, est-ce qu'il était aussi haut sur les listes en début, lui, ou c'est un petit peu... sa saison, la Coupe Memorial, puis tout ça, ça l'a permis de... Dans les trois, est-ce qu'il y en a un qu'au fil de la saison, s'est élevé un petit peu plus au-dessus des autres?
Je te dirais que Beaume, probablement, pas venu de nulle part, mais quand on l'avait vu avec le programme américain l'année passée, il était bon, mais je pensais pas qu'il y ait la dynamique à ce point-là au niveau NCAA. Puis du côté de Perec, il y avait eu une très, très bonne saison l'année passée. On était tous curieux jusqu'où qu'il allait apporter son jeu cette année. Au U18 à Gretzky-Linka, l'été passé, il avait très peu joué. Il était comme, je te dirais, septième défenseur, quasiment un spécialiste de l'avantage numérique. Il jouait très peu de minutes, donc on dirait que c'était difficile à juger de ce côté-là, mais évidemment, il y a eu un impact tellement important cette année dans la OHL qu'évidemment, on n'a pas eu le choix de le monter sur la liste.
Tu as parlé de plusieurs de ces défenseurs-là, Sam Dickinson, Anton Silaïev, Carter Yakimchuk. Il y a d'autres pour tous les goûts, mais s'il y a bien un type de joueur qu'on ne va pas passer souvent dans les repêchages, c'est des énormes attaquants de puissance, capables de marquer des buts. Quand on s'est parlé, là, je parlais évidemment de Caden Lindstrom, quand on s'est parlé, tu as même dit que certains de tes collègues avaient avancé des comparaisons avec Eric Lindros. Ça ne sort pas souvent des joueurs comme ça. Il était très attendu pour deux raisons. Les équipes voulaient lui parler, mais la deuxième, on voulait voir son état de santé. Qu'est-ce qui allait arriver de son côté, de ce côté-là?
Ma compréhension, c'est que le côté santé est correct. C'est une blessure qu'il avait l'année passée qui a pris plus de temps que prévu à guérir. Mais ma compréhension, c'est qu'il n'y a aucun problème du côté santé pour son avenir. Donc, je pense que ça va solidifier un peu son classement, mais de la façon que les équipes vont juger au repêchage. Encore une fois, c'est un joueur qui va être difficile à passer. Quand tu piges deuxième, troisième, quatrième, puis tu vois un joueur de 6 pieds 3 et demi qui peut... qui était probablement sur un pace de 50-60 buts cette année dans la WHL, qui peut tout faire, qui peut jouer un jeu robuste, qui peut contrôler la rondelle, qui aime jouer la position de centre, qui a une belle vision. Donc, quand tu regardes dans l'ensemble, c'est pas facile de pas piger un joueur de même quand tu es dans le top 5 du repêchage.
Ouais, c'est un gros bonhomme, Lindstrom. 6 pieds 4, 216 D. Puis ça, je suis même pas sûr que c'est ses statistiques les plus récentes. Quand Seb en a parlé, quand tu subis deux blessures, bon, vous dites, ça ne devrait pas affecter son rang ou du moins sa carrière, la suite de sa carrière, mais comment vous faites pour le juger? Vous prenez le court échantillon? Est-ce que vous êtes capable de juger une progression par rapport à son année? Comment, pour un dépisteur, c'est quoi les défis d'évaluer un joueur comme Lindstrom?
Bien, de notre côté, c'est évidemment, on l'a vu l'année passée, donc on l'a vu une pleine saison à 16 ans l'année passée, puis cette année... on a eu des flashs ici et là. Il avait joué à Gretzky-Linka. On avait vu son tournoi l'été passé. Cette année, il a juste joué une trentaine de matchs, donc c'était plus difficile de le voir régulièrement. Mais quand tu regardes dans l'ensemble, tu regardes le talent, le potentiel, à un moment donné, faut que tu t'arrêtes à juste le présent, tu sais, même s'il aurait joué 15 matchs cette année. Son talent puis son ensemble du jeu est tellement prometteur que tu n'as pas le choix de le classer dans un rang respectable aussi.
Ouais, je comprends très bien. Un autre joueur sur la liste que Seb a beaucoup aimé rencontrer, nous en a parlé. Ben, il a peut-être plus aimé rencontrer le père que rencontrer le joueur en question. T.J. Ginla, qui est le fils, bien évidemment, de Jaromir Ginla. Est-ce qu'il ressemble au père comme joueur? Parce que là, on s'attend quand même. On entend des belles choses sur lui, mais à quel point Jaromir a tellement marqué les Flames. D'ailleurs, les Flames qui repêchent 9e, il sera pas loin de ça, Ginla, dans les listes qu'on regarde un peu partout. Là, est-ce qu'on va avoir une deuxième génération de Ginla chez les Flames? Ça serait quelque chose. Mais il ressemble à quoi comme joueur? Est-ce qu'il est très proche de ce que le père offrait?
Je te dirais qu'il y a des similarités. J'ai pas vu nécessairement le côté robuste que son père apportait. Mm-hmm. Son père avait quand même pas mal de papier sablé dans son jeu. Puis peut-être que le jeune va aboutir à jouer un style de jeu comme ça plus tard aussi. Mais présentement, au niveau junior, c'est un joueur complet côté fabricant de jeu, côté son lancer est exceptionnel, il peut marquer des buts de toutes les angles. On l'a vu encore au U18 au dernier tournoi, quelqu'un qui peut jouer en avantage numérique puis 5 contre 5 puis produire beaucoup beaucoup d'offensives. De son côté, c'est un joueur qui a monté les échelons beaucoup sur nos listes depuis la première liste qu'on a publiée. au mois de janvier. Puis je te dirais, ce qu'on avait eu la chance de voir la fin de saison, parce que notre liste est quand même publiée assez tôt, probablement qu'il aurait monté encore quelques rangs. C'est un joueur qui est en pleine progression, qui a une belle personnalité. Je suis convaincu qu'il a fait des bonnes entrevues au Combine deux semaines passées. C'est quelqu'un qui se présente bien. Donc, c'est certainement un joueur intéressant. Pour une équipe qui pige entre le 5 à 10, là, je pense que ça va devenir très, très intéressant.
Ah, c'est ça.
Il y a vraiment le charisme du père aussi. Là, les deux Yin-là. Puis là, j'ai le troisième Yin-là qui s'en vient aussi dans les prochaines années. Un autre membre de la famille que tu vas devoir observer. Est-ce que quand tu l'as observé, tout ça, ça vient quand même. Ça prend un profil particulier pour vivre avec ces comparaisons-là. Évidemment, les équipes ont dû lui en parler. Nous, on lui en a parlé. Vivre dans l'ombre de son père comme ça, est-ce que c'est quelque chose que vous prenez en considération quand vous faites vos listes ou c'est vraiment purement ce que vous voyez sur la glace?
Pour nous, avec la centrale, c'est vraiment qu'est-ce qu'on voit sur la glace, qu'est-ce qu'on voit comme talent, qu'est-ce qu'on voit comme potentiel. Qu'est-ce qu'on voit comme projection? Côté, nous, à la centrale, c'est certain qu'on les côtoie ici et là durant la saison, surtout au Combine. Mais nos évaluations, c'est strictement qu'est-ce qu'on voit sur la glace. Les équipes vont aller beaucoup plus loin, évidemment, de ce côté-là, avec des entrevues, des psychologues, ils vont vraiment analyser le tout. Mais de son côté, à lui, Egana, tu peux vraiment voir qu'il a grandi dans le monde du hockey, qu'il a grandi dans la pression, on dirait que ça ne l'affecte vraiment pas, ce côté-là. Peu importe le marché qu'il va jouer dedans, je pense qu'il est prêt à faire face à la musique. Puis, tu as d'autres joueurs qui sont sur notre première page puis qui ont vécu dans un environnement où ce que leur père a joué. Puis, tu peux voir le côté maturité qui s'établit beaucoup. Quand tu regardes un gars comme Beaudoin, tu peux voir une maturité instantanée. Tu regardes un joueur comme Ryder Ritchie, son père a joué, tu peux voir une maturité, il y a une présence, une confiance qui s'établit, on dirait.
Oui, c'est sûr, parce que t'as un professeur à la maison à tous les jours qui est là pour te rappeler les bonnes habitudes à emprunter là, pour suivre le bon chemin. Donc, c'est un avantage, c'est certain. Il y a un joueur, JF, que tu aurais dû avoir proche de toi s'il était resté au Québec, s'il était resté dans la LHJMQ, c'est Sacha Boisvert. Boisvert est originaire de Trois-Rivières, mais n'a pas suivi le type de développement habituel des joueurs, pas de structure de hockey. On est allé dans la HPS, ensuite des prep schools américains. Depuis 2 ans, il est à Muskegon avec les Lumberjacks dans la USHL. Donc, on l'a moins vu ici au Québec. Je ne sais pas si tu as pu le voir, je ne sais pas dans quel événement ou peu importe, ou match ou... si tu l'as vu de près, mais parle-nous un peu de lui parce que ça devrait être le premier joueur francophone, premier Québécois repêché, là, peut-être même en première ronde, là, sur plusieurs listes, là, il apparaît en première ronde.
Oui, non, je l'ai vu à quelques reprises cette saison. C'est un joueur qu'on avait vu l'année passée, des beaux flashs de sa part. On pouvait voir qu'il avait un potentiel. On n'était pas convaincu à 100% qu'il allait être un joueur de première ronde, mais c'est vraiment établi cette année comme un joueur en puissance, malgré que tu regardes son gabarit, tu regardes sa grosseur, tu peux voir qu'il y a encore beaucoup d'espace à renforcer, mais c'est quelqu'un qui est prêt à jouer ce style de jeu-là. Un marqueur de but, un très bon sens du jeu, mais je pense qu'il n'y a pas le côté physique. J'ai même vu jeter les gants une couple de fois cette année. Puis,
ils ont-tu droit? Ils n'ont pas droit? Ils n'ont pas droit dans
USHL?
Selon son propre décompte, il a laissé tomber les gants 6 fois cette année. Bon. Puis ça semble avoir été bon.
Ça vaut la peine d'aller voir les vidéos, ça s'est bien passé pour
lui. C'est sûr, parce que lui, il est élevé à la boxe. Là. C'est son père formait des Olympiens aussi. Là, donc, les gars de boxe, d'habitude, il les garde. Mais dans sa jeunesse, il les gardait. Au hockey, il les laisse tomber. Mais justement, pour un joueur qui, le but est de se développer physiquement, devenir un attaquant de puissance, le chemin qu'il suit, là, il s'en va à l'Université du Dakota du Nord. Est-ce que c'est parfait pour un joueur comme ça? Peut-être jouer moins de matchs, mais tout de suite, va arriver plus gros chez les professionnels parce qu'ils ont plus de temps de développement?
Probablement. Tu sais, chaque situation, chaque joueur est différent. Dans son cas à lui, de ce que j'ai vu de la USHL l'année passée, je pense que c'est un joueur qui est prêt à aller au prochain niveau. Un peu comme Bradley Nadeau l'a fait l'année passée, il avait passé de la BCHL au Maine. Donc, c'est des choses qui arrivent. Les gars sont prêts pour ça. Dans son cas, évidemment, le fait de jouer moins de matchs probablement serait une bonne chose pour lui. Plus de temps dans le gym, plus de temps à focusser sur sa nutrition, des choses comme ça. Donc, c'est probablement que c'est de quoi de positif pour l'équipe qui va le repêcher cet été.
Il nous a dit qu'il voulait jouer à 210 livres dans la Ligue nationale. Donc, c'est sûr que ça n'arrivera pas du jour au lendemain. C'est probablement la bonne voie pour lui. Je pense qu'il voulait monter jusqu'à 190 dès l'an prochain. Donc, il a toujours dit que c'est un marathon pour lui. C'est, et non un sprint, parce qu'il connaît un petit peu quel genre de joueur il va être.
Et au rang où il va être repêché, il y a le temps aussi de faire deux, peut-être trois années dans l'NCAA avant de faire le saut chez les professionnels. Je ne sais pas si tu as une projection, JF, sur le moment où il pourrait faire le saut chez les pros. On sait, la NCAA, c'est un peu libre à toi. Tu prends ta décision quand tu es prêt à sortir des rangs collégiaux.
Oui, exactement. Je le verrais jouer une couple d'années certainement. C'est une couple d'années, un petit peu de temps dans la Ligue américaine. Il y aura un parcours un peu plus long, je pense. Puis je pense qu'il y en a un qui il est ouvert dans ses entrevues. J'ai lu une couple de ses quotes dans ses entrevues. Je pense qu'il sait qu'un plus long parcours. Puis il dit souvent, je pense, c'est le joueur que je vais être dans 5 ans qui est important, pas nécessairement le joueur que je suis aujourd'hui. Donc, je pense qu'il voit le long parcours, puis il va être patient avec le processus.
T'aurais-tu un comparatif pour lui par rapport à un joueur de la Ligue?
Oh boy, pour sortir un nom, pas vraiment, mais je le verrais comme un joueur qui pourrait s'établir comme un milieu, tu sais, on dit un middle six, là, quelqu'un qui peut jouer deuxième, troisième ligne, qui pourra apporter un aspect physique, mais un genre de power forward qui peut défendre des coéquipiers de temps en temps, mais qui a tellement un bon sens du jeu qui pourra jouer dans toutes les facettes du jeu. Donc, quelqu'un qui peut tuer des punitions, qui peut te marquer des buts, peut-être un deuxième avantage numérique. Moi, je le vois jouer un genre de jeu de ce style-là.
Parfait.
On va faire le saut du côté de la Ligue
territoire.
Le territoire, exact.
Du Québec.
Et puis, j'aimerais ça dire les espoirs francophones, juste apporter un petit bémol que le Cole Beaudoin le comprend, mais ne le parle pas vraiment. Michael Age, son père Alain, malheureusement décédé, est originaire du Québec. Donc, il y a quelques éléments francophones qui pourraient sortir.
À vrai dire, ironiquement, il y a plus de joueurs qui parlent français qui vont peut-être sortir avant le premier Québécois. C'est un peu... Pas avant le premier Québécois, mais avant le premier joueur de la LGMQ, parce que c'est pas une grande cuvée cette année pour la LGMQ. Selon toi, JF, est-ce qu'on va entendre un joueur du circuit être repêché en première ronde?
Première ronde, je doute. Je pense que les noms vont sortir plus en début de deuxième ronde. Pas que c'est des joueurs de moins bon niveau, mais je pense qu'il y a des joueurs qui se sont établis un petit peu plus cette année comparé à eux. Mais je te dirais, dans le premier 10 choix de la deuxième ronde, probablement que les joueurs vont commencer à sortir.
Ça serait qui? Bon, parle-moi un peu des meilleurs espoirs. On parle, selon vos listes, selon vous, qui sont les joueurs à surveiller?
Bien, sur notre liste, on a Spencer Gill au rang 29 nord-américain, puis on a Maxime Massé au niveau 30, au 30e rang. Donc, c'est très, très proche. Il y a des équipes qui ont peut-être Massé en avant de Gill, puis il y a des équipes qui auront probablement Gill en avant de Massé. Donc, ça va devenir plus... qu'est-ce qu'il recherche? Il recherche-tu un défenseur de 6 pieds 4 comme Spencer Gill ou un attaquant en puissance comme Maxime Massé? Donc, ces deux-là, selon moi, on les peut-être le plus de chances de sortir tôt en deuxième ronde. Puis après ça, on a un joueur comme Eric Smetejko à Saint-Jean, qui est quand même très, très intriguant à plus que 6 pieds 5, parce que la dernière mesure était 6 pieds 5 et quart, qui peut être un marqueur de but, mais encore une fois, comme on a parlé tantôt, un peu comme Boisvert, un joueur qui peut faire un peu de tout. On l'a vu au championnat mondial junior l'année passée aussi, qui peut jouer en avantage numérique, comme en désavantage numérique. Difficile à jouer contre avec son long bâton, très, très bon en échec avant aussi. Donc, ces trois joueurs-là, je pense que en début de deuxième ronde, ont une chance de sortir.
Un joueur comme Matejko ne deviendra pas un power forward à la Quinton Byfield, par exemple. On parle plus d'un joueur qui va avoir un... on avait fait un comparatif que les gens vont connaître, c'est peut-être un Joel Armia, disons, là, au sommet.
Tu vois les mots de la bouche.
Ah, tu as vu?
Oui, mais... je pense que c'est une bonne comparaison. C'est quelqu'un qui, je pense pas qu'il va arriver à la Ligue nationale puis marquer 35 buts, mais quelqu'un qui peut t'ajouter beaucoup de profondeur dans les séries éliminatoires. On le voit tout de suite dans les séries. Ça prend de la grosseur, ça prend des joueurs qui prennent de la place sur la glace. Je pense que c'est 6 et 5 et quart, 210 livres. C'est probablement quelqu'un qui va jouer à 225-230 quand son corps sera complètement rempli. Puis, il y a quand même une touche autour du filet. C'est pas juste quelqu'un qui va se promener sur la glace puis faire des mises en échec. C'est quelqu'un qui peut fabriquer des jeux puis qui peut en finir autour du filet. Que ce soit avec des déflexions ou des retours, j'ai vraiment apprécié son jeu cette saison.
Je veux qu'on vienne sur Maxime Massé un peu. On l'aime bien. Là. Il a son blog sur le site d'LNH.com durant toute la saison. Comment il a vécu cette saison? Faites une recherche au PLNH.com. Faites la recherche Maxime Massé. Vous allez trouver tout son parcours de cette année. Mais Massé, comme joueur avec les Saguenayens de Chicoutimi, cette année a amassé 75 points, 67 matchs, progression là, de 13 points par rapport à l'année précédente. Est-ce que justement sa cote auprès de vous autres, c'est en hausse, c'est neutre? Qu'est-ce qui fait qu'il vous donne confiance que début de deuxième ronde, ça devrait aller quand même dans ce coin-là pour lui?
Ben, je pense que ça s'est maintenu parce que évidemment, il y a eu une saison exceptionnelle l'année passée. Il était nommé recrue de l'année au niveau de la Ligue canadienne de hockey, marqué beaucoup de buts, il était bien encadré avec un joueur comme Lojko qui fabriquait beaucoup de jeux pour lui. Il était mis dans une situation quand même assez difficile cette année dans le sens que Chicoutimi était très, très jeune, une équipe très, très talentueuse, mais remplie de 16 ans, 17 ans. Donc, une année de repêchage comme ça où un joueur comme Maxime a dû traîner beaucoup son équipe soir après soir, jouer première ligne, jouer les meilleurs attaquants, les meilleurs défenseurs de l'autre équipe. Donc, il y a eu des match-ups un peu plus difficiles à chaque soir que certains autres espoirs. Mais il a bien répondu en général. Il a fini la saison avec 36 buts encore cette année. Donc, un marqueur de but, bon gabarit, encore une fois, qui pourra jouer dans les deux sens de la glace au niveau professionnel. Mais des marqueurs de but avec des bons gabarits, c'est quand même très, très recherché au niveau Ligue nationale. Donc, je peux pas voir qu'il va patienter trop, trop longtemps la journée du repêchage.
Tu as parlé des Saguenayens qui étaient une équipe jeune, donc on a quand même bien terminé l'année, on fait une surprise en séries éliminatoires. Une autre, on va à l'autre bout du spectre, on avait le Drakkar de Bécomo, à tout seigneur, tout honneur, les champions de la LHJMQ, qui eux avaient quand même plusieurs espoirs de premier plan pour le prochain repêchage. Je parle à Raoul Boilard, je parle à Alexis Bernier, Justin Poirier. Donc, ça doit être, pour toi, de un, ça doit être intéressant de se rendre à un seul aréna puis d'avoir autant de joueurs de la même équipe à étudier.
Ah, exactement. Mais tu pouvais avoir beaucoup de dépisteurs. Les matchs que c'était Chicoutimi contre Bécomo, les arénas étaient souvent pleines de dépisteurs. Donc, c'est certainement trois joueurs de qualité à Bécomo qui ont eu une belle progression. Dans le cas de Raoul, voilà, il arrive la BCHL où ce qu'il avait pas beaucoup joué. Il n'avait pas un gros rôle l'année passée. Ses statistiques étaient ordinaires. Il est arrivé à Bécomo cette année, on s'attendait pas. T'sais, on savait que c'était un bon joueur parce qu'il était projeté comme un joueur de première ronde au niveau son année de repêchage au niveau junior major du Québec. Donc, mais il s'est vraiment séparé cette année. Dès le début de la saison, il a apporté un sens du jeu que peut-être Bécomo recherchait. Puis ils ont été cherchés dans un échange où ce que ça n'a pas vraiment coûté très, très cher pour avoir un joueur de son calibre qui va être là à 17, 18, 19 ans. Un joueur très intelligent, très, très bon avec la rondelle, fabricant de jeu. Il n'y a pas eu beaucoup d'avantages numériques cette année dans le sens que Bécomo était tellement fort au niveau de la première ligne, deuxième ligne. Souvent, on allait le voir jouer, il était surtout troisième joueur de centre, mais il avait le deuxième avantage numérique. Donc, c'est quand même impressionnant de voir la production qu'il y a eu cette année, 62 points. Avec le peu d'avantages numériques, c'est certainement quelqu'un qui va progresser encore beaucoup plus dans les deux prochaines années, probablement avec plus de temps de glace, peut-être jouer qu'avec un Poirier sur la première ligne les deux prochaines saisons. Donc, ça va être assez explosif de ce côté-là.
As-tu une carte cachée dans les LHJMQ? Un joueur qui, peut-être qu'on ne parle pas beaucoup, mais qui pourrait être appelé plus rapidement prévu?
Les cartes cachées, ben, tu sais, on a parlé brièvement.
T'as pas de l'air à aimer ça comme la façon que tu
J'ai ma liste devant moi, puis c'est difficile d'en choisir un parce qu'il y a beaucoup de belles. Il y a beaucoup de belles cartes cachées. Alexis Bernier, qui est invité au combine, qui est excellent dans les deux sens du jeu. Je pense qu'il va être beaucoup apprécié par les équipes. Bon défenseur solide. Il joue une game simple, mais qui est apprécié de tout le monde. Alexandre Blais à Rimouski, un bon petit joueur de créatif, des bonnes mains. Encore une fois, une très, très bonne saison à Rimouski. C'est un joueur qui est troisième année éligible. Mathias Melavski, qui est aussi à Bécomo.
Ouais.
Un joueur intriguant, un joueur intéressant, qui a eu un excellent championnat mondial junior. Mais quand je regarde les séries éliminatoires présentement, en général, les équipes recherchent la grosseur des joueurs qui peuvent jouer un jeu physique. T'as un Gabe Smith à Moncton, qui est un autre de 6 pieds 4, qui aime le jeu robuste, peut-être intéressant pour des équipes en 4e, 5e ronde.
J'ai fait
un
recensement. Merci, Seb. À moi, je me suis trompé dans mes calculs, là, mais selon ce que j'ai recensé, pour une quatrième année de suite, il n'y aura probablement pas de joueur québécois dans le top 15. Depuis 2017, il y en a seulement eu un, c'est Alexis Lafrenière. Je comparais avec la Suède. En Suède, on a à peu près 10 à 15% moins de joueurs enregistrés dans le hockey mineur, dans le hockey, qu'au Québec. Et pourtant, pendant ce temps-là, depuis 2017, les Suédois en ont produit 15 joueurs dans le top 15 du repêchage. Quand tu parles aux dirigeants d'équipe, est-ce qu'il y a un certain sentiment de panique? Est-ce qu'il y a certaines remises en question pour expliquer tout ça? Parce que visiblement, développer des joueurs d'élite, on ne l'a pas là présentement au Québec. Puis même, je peux même ajouter peut-être dans le reste de la LGMQ, là, mais je parle plus du Québec parce qu'on avait eu Noah Dobson il y a quelques années aussi du côté des Maritimes. Mais vraiment, au Québec, tu sens-tu un peu un sentiment d'urgence, un sentiment de « faut brasser la cage, faut changer les choses » ou « business as usual »?
Ben, je pense pas que c'est pour moi qui va sortir avec la solution aujourd'hui. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se grattent la tête de ce côté-là, de dire comment est-ce qu'on peut faire pour propulser les joueurs du Québec au prochain niveau. Il n'y a pas vraiment de recette magique. Je pense qu'en général, il faut qu'il y ait de plus en plus de jeunes qui s'inscrivent dans le hockey mineur, qu'on diminue les coûts. Les coûts pour jouer au hockey maintenant, c'est rendu assez impressionnant. Quand tu veux jouer du hockey d'élite, c'est des frais assez importants pour les jeunes, les familles. Donc, je pense que quand tu regardes dans l'ensemble, il faut que tu rendes le sport plus accessible pour que l'entonnoir ne se ferme pas rapidement. Je pense que présentement, l'entonnoir se ferme quasiment à l'âge de 11-12 ans. Tu sais, t'es rendu au niveau élite, au niveau, tu sais, 10, 11, 12, 13 ans, puis c'est des 10 000, des 15 000, des 20 000, des 30 000 $ d'investi, non seulement dans ton équipe de hockey, mais pour les entraînements d'été, les cliniques de power skating. Ça devient très, très pesant pour les familles. Puis peut-être que ça décourage quelques familles qui vont choisir un autre sport, le soccer, le basketball ou le baseball, ou peu importe qu'est-ce qui est un peu plus abordable pour les familles. Donc, c'est creux, j'appellerais pas ça un problème, mais c'est dans le sport en général au Canada. Je pense que c'est une culture qu'il faut qu'il change pour rendre ça le plus accessible possible.
Jean-François, GF, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur cet épisode. On a hâte de voir un peu tout ce que ça va donner. Ça commence le 28, en direct de la sphère de Vegas. Tu y vas pas cette année quand même. Non, t'as pas voulu aller voir ça, la sphère?
Non, je serai pas là cette année. J'ai été l'année passée à Nashville, mais je saute mon tour cette année. Je vais suivre ça à la télévision comme tout le monde.
Quand même, Nashville à Vegas, on dit que Nashville, c'est le Vegas de l'Est. Là. C'est peut-être pour ça qu'après ça, les repêcheurs seront plus en personne, comme c'était le cas depuis tellement d'années. C'est des grosses soirées pour certains. C'est Bill Guérin l'année dernière qui avait salué tout le monde tout le monde du Tootsie, qui avait hydraté tout le monde pendant le week-end
du
repêchage. Donc, c'est peut-être pour ça. Hey, un gros merci, GF, puis on te reparle l'an prochain, c'est sûr et certain. Merci encore d'avoir été là.
Merci, GF.
Merci beaucoup.
Hey, Seb, toi aussi, merci beaucoup d'avoir été sur le balado aujourd'hui pour parler du repêchage.
Ben, je te remercie beaucoup, Nicolas, de m'avoir reçu.
Oui, parce que de toute façon, tu vas y être, toi, à Vegas. Tu vas aller couvrir le tout avec GF et avec Guillaume. D'ailleurs, notre prochain balado Ça devrait être mercredi. Les gars vont être rendus à Vegas. Donc, on va revenir sur la finale de la Coupe Stanley, tout ça, tout ce qui s'est passé. Et justement, si on va être à Vegas, vous allez déjà être dans l'ambiance du repêchage. Ça va vite, hein, cette année, les trophées, tout ça. Soyons francs, là, on aurait pris une fin de finale de la Coupe Stanley après 3 matchs. Donc, ça va pas mal vite, mais justement, vous allez être là pour parler. Donc, prochain balado, les gens qui nous écoutent en ligne, là, suivez-nous sur les plateformes d'écoute, peu importe laquelle, comme ça, ça va. Tu sais, des fois, il y a une petite alarme. Là. Moi, j'en reçois une, en tout cas, là, du moins, là, quand j'écoute là, sur. Je sais pas, toi, t'écoutes où? Moi, j'écoute sur Spotify, là, mais.
Oui, l'abonnement, c'est la meilleure façon de rien manquer de nos podcasts préférés.
Et voilà. Donc, c'est ça. Seb, merci encore. JF Danfous, merci qui était là un peu il y a quelques minutes. Et chers auditeurs, ben merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et on se reparle très bientôt.